Bonsoir à toutes et à tous. La voilà, la dernière émission de la semaine de Par les temps qui courent, qui écoute les artistes pendant une heure tous les soirs. On est ravis de recevoir Florence Lazare.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter,
péter. Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Florence Lazare.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Les premières personnes que l'on rencontre en entrant dans votre exposition, et j'utilise le verbe rencontrer à dessein, sont toutes à leur travail, trier du bois pour en faire des fagots sans feuillage. Au premier plan, deux hommes, aux gestes précis et répétitifs. Au second plan, deux femmes qui travaillent aussi. L'un des hommes parle, particulièrement lucide et précis, tandis que ses mains s'activent, il dit. Lorsqu'on est économiquement dépendant, on est facilement manipulable. Lorsqu'on est indépendant, on peut s'exprimer. Il s'agit du film Les Pays tourné dans un petit village de Serbie, au pied levé, en décembre 1999, 6 mois après l'intervention militaire de l'OTAN qui a mis fin au conflit armé et à la crise humanitaire au Kosovo. C'est le film qui ouvre l'exposition consacrée à votre travail au musée du Jeu de Paume. Cette parole étayée, mêlée aux gestes, en donne une tonalité prédominante ainsi que celle de la transmission. Bonsoir à vous, Florence Lazare.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue. L'exposition s'appelle « Tu crois que la Terre est chose morte ». Elle est visible jusqu'au 2 juin, donc au Musée du Jeu de Paume à Paris. Et elle est accompagnée d'un très beau catalogue. Je cite les deux commissaires, Sandra Catini et Dean Ingster. Peut-être un mot sur l'idée de la rencontre. C'est exactement comme ça que je me suis fait prendre au jeu, je dirais. Tout de suite, par un système de presque de compartiments, j'ai été comme invitée à m'asseoir et à regarder, quoi. Et c'était assez impératif, assez hypnotique. Est-ce que c'est comme ça, ou alors plutôt, comment l'avez-vous pensé, cette exposition ?
Alors, c'est intéressant que vous renvoyiez ce rapport à l'accueil, parce qu'effectivement, j'avais un souci, déjà de faire cohabiter dans un même espace, plusieurs vidéos et les photographies. Et donc, en fait, les structures qui abritent les paysans et de l'autre côté 125 hectares ont été en fait le fruit d'un travail collectif et avec un acousticien. Voilà, donc en fait le dessin en fait de la structure vient c'est un dessin d'un acousticien et avec les contraintes de la sécurité et avec aussi ce désir de rendre chaque vidéo dans un rapport d'écoute précis. Alors l'anecdote, que je trouve intéressante, c'est que les conditions de sécurité ont fait la structure, on ne pouvait rien
fixer au sol.
Fixer au sol, merci. Et du coup, les sièges ont servi en fait de contrepoids. Et on a un peu travaillé ça de manière abstraite, on va dire. Et la grande surprise, ça a été au moment en fait de l'accrochage, enfin de l'agencement. Il y a eu quelque chose en fait de l'ordre d'une petite agora en fait qui s'est créée.
Donc autour
de chaque film, enfin surtout avec les paysans et 125 hectares, et que cette structure qui était donc fermée, un peu fermée, en même temps proposait une ouverture et un accueil. comme un petit théâtre en fait. Et voilà, enfin ça a été un peu la bonne surprise de la mise en place de ces structures. Et que du coup, ces sièges, enfin ce dispositif, met physiquement en présence les spectateurs. Et même, c'est presque comme s'il est fictionalisé, en fait. Il y a quelque chose,
C'est-à-dire que comme vos films relèvent, on y reviendra, hein, mais d'une forme de portrait, c'est-à-dire qu'on voit des gens qui parlent, qui sont souvent en train de faire quelque chose, on voit leur corps, leur visage, on écoute leurs paroles. Ben nous, on se retrouve presque dans une sorte de continuum. Pas du tout d'égalité, mais de continuum. Ouais, exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'on est inclus. Et on parle pas souvent, mais on est là un peu au même titre que les personnes que vous avez filmées, qui en 1999 et qui beaucoup plus récemment.
Comme si ça fabriquait une agora, quoi. Et comme si effectivement les personnages dans le film presque se dédoubler dans une autre présence, en fait.
Ouais, autre que seulement sur l'écran, en tout cas.
Autre que celle de l'écran, quoi. Et c'est vrai que dans le film Les Paysans, donc il date de 2000, hein, donc c'est vraiment un vieux film. Et c'est bon, d'ailleurs, c'est un film assez fondateur dans mon travail, hein, qui met un peu en place tout ce que je vais fabriquer après. Hein. La constitution de ce film, c'est enfin voilà, c'est fait un peu, je vais pas dire au hasard, mais presque par défaut, ou je l'avais pas du tout calculé. Enfin voilà, j'étais jeune. Enfin là, je suis allée en Serbie accompagnée de ma mère qui me servait en même temps de traductrice et de guide. Et j'avais
c'est
pas
la voix de votre mère qu'on entend.
Ah, absolument, oui, c'est la voix de ma mère. Et j'avais pas du tout. Enfin, j'étais partie avec un désir donc d'y aller, avec plutôt une urgence Oui, j'étais dans une perspective vraiment d'urgence, mais j'avais pas trop. Enfin, je suis partie donc avec ma petite caméra que je venais de m'acheter. J'avais pas du tout. J'avais fait un tout petit film, mais à peine. J'avais laissé mon appareil photo par rapport au fait que je suis partie avec un outil que je maîtrisais pas totalement en fait. J'avais pas non plus de sujet précis. Enfin tout ça pour vous dire que j'avais pas de préalable, quoi. Enfin, j'avais juste le point de départ était vraiment d'essayer de comprendre ce qui se passait sur le terrain et.
Et vous arrivez là-bas et qu'est-ce qui se passe justement?
J'arrive là-bas. Je fais un certain nombre d'entretiens à Belgrade, dans différents milieux sociaux, et je vais accompagner ma mère dans ce village. Enfin, donc c'est un village en particulier, c'est un village qu'elle affectionnait elle. Enfin, parce qu'elle avait été cachée pendant la guerre. Enfin bon, elle avait toute une histoire affective par rapport à ce lieu, et elle m'avait raconté avant de partir qu'elle y allait quand même de temps en temps, hein, elle y allait de temps en temps. Elle était retournée dans ce village un an avant notre voyage, et elle me disait, tiens, Florence, dans ce village-là, j'entends d'autres sons de cloche. Bon. La rencontre avec le locuteur du film Les Paysans était secrètement ce qu'on était en attente secrètement de rencontrer une personne comme ça. Bon, parce qu'à l'époque, la Serbie était encore dans un climat ethno-nationaliste, ultra-nationaliste. J'y vais avec ma mère qui va me guider et qui va me traduire, hein, parce que il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une d'un rapport intime qui est aussi lié à une langue qu'elle m'a pas transmise. Voilà, il y avait ces paramètres qui étaient d'essayer de comprendre une société qui avait basculé dans l'ultranationalisme, dans une folie, doublée en fait d'une voilà, enfin d'une circulaire, enfin d'une de quelque chose qui voilà qui m'avait peut-être manqué, qui était la langue de ma mère. Du coup, c'est voilà, je suis partie avec cette double position, hein, en étant familière et étrangère.
Très informée, ouais. Et en même temps, vous aviez besoin de vous aviez besoin de votre mère pour comprendre les gens que vous rencontriez sur place.
Absolument.
Quoi, ce paradoxe-là. Ouais, ouais. Et donc, vous arrivez dans cette ferme.
Alors, j'arrive dans cette ferme. Enfin, j'arrive dans cette ferme en fait, et en fait, on était accompagné d'une personne qui nous justement qui nous guidait, parce que en fait, je cherchais désespérément quelqu'un avec cette position nationaliste que je voulais un peu comprendre. Et voilà, et on entre, on ouvre en fait les portes de la grange, et je tombe en fait déjà sur cette scène.
Faut la décrire.
Alors, donc c'est mais vous l'avez décrite très bien au début.
Oui, mais il faut la redécrire, je pense, parce que par exemple, j'ai pas parlé de cette longue table.
Oui,
qui
alors
fait comme une
voilà,
sorte de ouais, plan. De,
voilà, alors ce qui, alors c'est, donc je tombe sur cette scène, donc qui m'est presque,
offerte.
Qui m'est offerte, oui, absolument. C'était un peu un état de grâce. Deux hommes trient des sarments de vigne. Il les pose sur une table longue, voilà. Et derrière, leur femme les accompagne. Elle ne travaille pas. Elles étaient juste en présence.
Elles nouent les fagots quand même.
Elles nouent, c'est vrai qu'elles nouent les fagots. Voilà. Non, ouais, voilà. Bah oui, bien sûr, elles nouent les fagots. Ça faisait les couper. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans l'image, je trouve qu'elles jouent, en fait, elles ont une place de spectatrice,
ah
en
oui,
fait.
Totalement, bien
voilà,
sûr.
Voilà, c'est pour ça qu'en fait, moi, je les vois même plus en train de nouer les fagots, mais elles ont tellement cette position d'être.
Et elles les écoutent incroyablement.
Voilà. Mais dans l'image, elles sont une espèce de, elles sont les spectatrices. Et ce qui se passe, et ce qui a été aussi intéressant, et c'est pour ça que, pour revenir à la structure, je suis assez contente de cette structure parce qu'elle renvoie aussi le hors-champ de l'image, qui était que au bout d'un moment dans notre discussion, il y a un nombre de personnes qui sont arrivées parce qu'en fait, on avait laissé les portes ouvertes. De la grange. Donc chaque personne qui passait voyait qu'il y avait quelque chose qui se passait, quoi. Et au fur et à mesure, il y a énormément de gens qui sont venus écouter et qui sont restés comme ça hors champ. Voilà. Donc c'est il y a quelque chose. Voilà.
Cet homme-là, il va parler pendant de très longues minutes, tout en continuant à faire exactement les gestes dont on imagine qu'il les fait toute la journée. Mm-hmm. Et donc, il y a un truc hypnotique qui fait que on l'écoute, quoi. Mmh. Et il rentre dans un grand fleuve, extrêmement politisé, d'analyse de la situation présente, passée, du rapport au Kosovo, de questions politiques qui ont été plus ou moins traitées, qui se sont envenimées, etc., etc. Mmh. Et on est un peu comme abasourdi. Mmh. Probablement parce que quelque chose à une sorte de préjugé qui est dans cette scène de ferme, de travail, de tri de bois. On s'attend pas à ce que surgisse ce genre de discours. Et donc, on l'écoute, je pense, dérangé dans nos préjugés. Est-ce que ce fut votre cas, Florence Lazare?
Moi, j'étais surtout abasourdie qu'une position tellement minoritaire et dissidente soit, enfin que je la trouve en fait.
Et il disait ça lui. Il dit, j'ai bien conscience que je pense différemment de l'opinion publique.
De l'opinion publique et de son voisin et de la personne avec laquelle il travaille, qui était en présence de, qui était là, qui était Oui, absolument. Enfin, d'ailleurs, cette position, elle reste encore minoritaire aujourd'hui.
Et qui est laquelle, si on essaye de la résumer?
qui est de comprendre que la crise en ex-Yougoslavie est la conséquence d'une construction idéologique menée au départ par Milošević, ensuite reprise par Tudjman, bon, par les Croates. Que le Kosovo avait, il a clairement dit en 99, il prévoyait que le Kosovo allait être indépendant, hein, chose qui s'est passée 8 ans après le film. Ça c'est une position extrêmement particulière, dans la mesure où le Kosovo en Serbie est considéré comme faisant partie de la Serbie. Le Kosovo a été le déclencheur des guerres en ex-Yougoslavie. Hein. C'est vraiment c'est un peu le talon d'Achille de la Serbie, dans la mesure en fait où tous les monastères religieux, etc., du Moyen Âge serbes sont au Kosovo et donc constituent en fait le cœur culturel, spirituel, orthodoxe de la Serbie.
Bon, on écoute cet homme.
J'ai peut-être une opinion différente sur cette question. Par rapport à l'opinion publique en Serbie, je pense qu'on a raté la chance de régler cette question avant cette guerre d'une manière démocratique. On a amené tout simplement les choses dans l'impasse. Parce que Milošević a instauré là-bas réellement un pouvoir arrogant. La police là-bas a maltraité ces gens, il faut être honnête et l'avouer. Et ceci a culminé et arrivé jusqu'au point que nous connaissons. Donc, les Albanais, il y en a au moins 50-60% qui pouvaient vivre loyalement dans cet État avec une politique intelligente. Et il n'y aurait pas eu de guerre et de tous ces malheurs.
Donc la voix de votre mère qui traduit cet homme en train de travailler et de vous parler, Florence Lazare. Tout à l'heure, vous avez dit, en fait, ce film, il est matriciel, c'est le cas de le dire. Et à partir de ça, j'ai développé tout mon travail. Qu'est-ce qu'il y a dans ce film qui se retrouve dans ce qu'on peut voir par ailleurs au Jeu de Paume et qui a suivi, qui a été votre production artistique ensuite?
Je pense que c'est... Alors... Peut-être la question du dépassement du témoignage, de cette relation d'un côté entre l'image et le récit, l'intrication des deux, hein, qui, je pense, produisent ce dépassement de l'entretien ou du témoignage. Clairement, la relation du corps, du geste et de la parole. Voilà, c'est ce qui va, je pense... je vais pas en faire À chaque fois, ça va se fabriquer autrement. Hein. Je vais pas du tout le systématiser, mais en confession d'un jeune militant, il y a un autre dispositif. Enfin, voilà, il y a à chaque fois un autre dispositif que j'ai malgré tout retrouvé dans mon dernier film, 125 hectares.
Ah oui.
Mais ça, c'est 18 ans plus tard. C'est assez étonnant en fait.
Qui est encore une femme qui travaille.
C'est une femme qui travaille, voilà.
Au champ, une analyse du système agroéconomique et de l'île sur laquelle elle travaille.
Oui, tout à fait. Et qui fabrique, c'est clair qu'il y a un vrai lien. Mais en même temps, en même temps, c'est pas fabriqué de la même manière. Les paysans, comme je vous disais au départ, je suis arrivée avec une petite caméra, j'avais même pas de micro, hein. Donc, le micro était intégré à ces mono-CD, hein, c'était des mono-CD, hein, donc c'était vraiment... c'est 99. Hein. C'est pour ça que j'ai refait une post-synchro de La Voix de ma mère. Voilà. Et que du coup, j'ai aussi assumé... voilà, de lui donner aussi une présence, en fait. Oui, non, mais pour 125 hectares, voilà, ça a été, je suis avec d'autres moyens, je suis avec une équipe, et on est, il me semble, dans une forme peut-être plus cinématographique, tandis que les paysans, il y a encore le spectre de la photographie.
Parce que vous aviez laissé votre appareil photo en 99 lorsque vous allez en Serbie, mais bon, il est dans votre cœur, ou dans votre main, ou dans votre œil.
Il est, je l'ai en mémoire en tout cas. Bah, je faisais des cadres, hein, donc, enfin voilà, des cadres fixes, donc voilà. Donc il y a quelque chose de l'ordre, enfin, qui revient. Enfin, d'ailleurs, c'est un faux cadre fixe, hein, parce que du coup, il est monté. Alors je l'ai monté de manière à justement enlever ma voix. Donc il a donc un petit caractère brut, mais j'ai pile les coupes du montage sont liées au retrait de ma voix.
Il y a des généalogies dont il vaut mieux ne pas se vanter. Une goule, une sorcière dont Dieu merci la mort nous a délivrés.
Morte ou vivante, c'est ma mère, et je ne la renierai pas. D'ailleurs, tu ne la crois morte que parce que tu crois que la terre est chose morte. C'est tellement plus commode. Morte, alors on la piétine, on la souille, on la foule d'un pied vainqueur. Moi, je la respecte, car je sais qu'elle vit.
Un extrait d'une fiction diffusée sur France Culture, réalisée par Michel Sidorov. C'est La Tempête d'Aimé Césaire, au micro Jonathan Mozambi et Marc-Henri Boisse. Pour faire référence, Florence Lazare, au titre que vous choisissez pour votre exposition au Jeu de Paume, Tu crois que la terre est chose morte, trois petits points, qui est une citation. C'est tellement plus commode, morte, alors on la piétine. Pourquoi Césaire? Pourquoi cette phrase qui va, pareil, agir comme une invitation à entrer dans la présentation de votre travail. 20 ans de travail, en fait, Florence Lazare, quand même.
Oui.
Du coup, le titre n'est pas anodin.
Non, le titre n'est pas anodin. Il est comment... Enfin, je l'ai choisi avec les commissaires, hein, donc il y a quand même deux commissaires dans cette exposition, Sandra Catigny et Dinningster. C'est une phrase que j'avais relevée quand j'avais fait mon 1%, le 1% artistique au Collège Aimé Césaire, voilà, qui m'avait déjà, qui m'avait frappé, enfin voilà, qui m'avait, on va dire, interpellé. Et du coup, je n'arrivais pas à trouver de titre pour cette exposition. Et cette phrase m'est revenue. Et en réfléchissant, on s'est dit avec les commissaires, en fait, que ça faisait du sens dans le sens où ça travaillait toute la partie que j'avais réalisée et en Martinique et au Collège Aimé Césaire, mais pas seulement. Ça faisait résonance aussi avec le film Kamen, Les Pierres, que j'ai réalisé en 2014 en Republika Srpska, en fait, dont l'église orthodoxe nationaliste recouvre la mémoire musulmane en refabriquant de toutes pièces un patrimoine inventé. Et voilà, ça fait résonance.
Le mot d'Aimé Césaire, nous permet aussi de circuler dans ce sens-là. Mais puisque vous faisiez référence tout à l'heure au film Confession d'un jeune militant, on en écoute un extrait.
Il se trouve que j'ai très très tôt adhéré au Parti Socialiste, immédiatement après la guerre, donc j'étais un adolescent. Et j'y suis entré d'une façon, je dirais pas extraordinaire, non, parce que c'était naturel, mais qui quand même était assez exceptionnel dans mon milieu, un milieu et une époque où la plupart des jeunes allaient plutôt au Parti communiste, qui était censé être beaucoup plus pur et révolutionnaire que le Parti socialiste, qui portait quand même le poids de son réformisme, ce qui apparemment n'était pas très exaltant pour la jeunesse. Mais il se trouve que pour des raisons qu'il faudrait peut-être élucider, j'ai eu un réflexe de rejet du communisme et du stalinisme qui date, je crois, de mon enfance. Et je crois que ça date du moment où, en 1939, il y a eu la conclusion du pacte germano-soviétique qui, pour moi, bien qu'étant enfant, a constitué quelque chose de tout à fait monstrueux. Et je crois que ça a sans doute été le facteur décisif de mon rejet du communisme. Et comme, naturellement, je devais être engagé à gauche du fait de mes origines familiales, de mon milieu social et des événements de la guerre, et je n'avais guère le choix qu'entre le Parti communiste et le Parti socialiste, et je choisis naturellement, sans avoir d'attache avec qui que ce soit au Parti socialiste, d'adhérer très vite, alors que j'avais 16 ou 17 ans ou 18 ans, au Parti socialiste. C'est vrai qu'il existait déjà à l'époque des mouvements à gauche, à l'extrême gauche, en dehors du PC et du PS, mais je n'ai jamais cru au groupuscule trotskiste qui existait à l'époque, ce qui a fait que, bien que j'avais une certaine sympathie pour le personnage de Trotsky, personnage assez romantique, je n'ai jamais politiquement voulu adhérer à une quelconque organisation trotskiste.
C'est donc le son d'un film réalisé en 2008. Tout à l'heure, vous avez dit, à partir de ce premier film, Les Paysans, voilà, qu'il était matriciel et que même si le dispositif changeait de film en film, eh ben, il y avait des choses qui allaient quand même se faire écho ou peut-être se ressembler. Est-ce que vous pouvez, Florence Lazare, nous parler de voilà, comment ce film s'est fabriqué, quel est le dispositif, dans quelles conditions et avec quelle, je sais pas, question de départ adressée à votre père, puisque c'est la voix de votre père qu'on entend.
Oui, non, mais c'est comme les paysans. En fait, ce film, il s'est aussi fait par défaut. J'avais 3 jours de tournage avec une amie et mon père sur des questions politiques. Donc voilà, donc je voulais faire un autre film.
Lesquelles questions politiques?
Enfin, sur les questions Solidarnosc, sur les questions sur les revues alternatives Solidarnosc, enfin sur les mouvements ouvriers en Pologne, parce que cette amie est polonaise. Voilà, donc il y avait voilà des questions. Voilà, c'était des. Je voulais en fait se faire rencontrer cette différentes générations entre cette amie et mon père sur des questions politiques. J'avais demandé à mon père de venir avec quelques livres chez moi. Et il est arrivé avec une valise. Voilà. Avec une énorme valise.
J'adore. Coucou. Voilà.
Et j'ai installé tous ces livres par terre dans mon atelier. Puis on a continué à tourner. L'autre film, d'ailleurs qui n'a pas eu d'existence. Et puis le dernier jour après-midi, je réfléchissais, qu'est-ce que je vais faire avec tous ces livres par terre, quoi. Enfin, toute cette, parce qu'il y en avait une masse quand même. Voilà. Et très simplement, j'ai demandé à mon fils, qui était tout jeune, enfin, qui avait 12, 13 ans, qui était dans sa chambre, jouait avec des copains, je lui ai dit, bon, écoute, viens, tu vas aider ton grand-père juste à lui donner les livres, parce qu'il est un peu pas tout jeune. Et donc, j'ai installé mon père sur une chaise, et puis, on a commencé le film.
Et au fur et à mesure, c'est donc un quand même tout jeune garçon qui amène des ouvrages, pas n'importe lesquels, avec un poids historique, politique, dans les mains d'un homme beaucoup plus âgé, et la discussion s'engage sur exactement ce que dit le titre, confession d'un jeune militant, ce en quoi il a cru, ce en quoi il a arrêté de croire. Mmh. Et donc, ça renseigne aussi Florence Lazare sur une autre thématique importante de cette exposition, qui est la transmission. Mmh. Dans le film Les Paysans, cet homme-là, comme ça, d'un bloc presque, il vous transmet sa vision politique éclairée et dissidente d'un temps précis en Serbie. Mmh. Là, c'est la formation politique de votre père. Et puis, en fait, tout le temps, il y a quelque chose de cet ordre-là.
Ou de la difficulté de la transmission.
Bien sûr.
Parce que en fait, dans Confession d'un jeune militant, on n'assiste pas à une transmission dans sa portée éducative. Il y a quand même un décalage qui s'opère entre mon fils pieds nus qui écoute à moitié, qui n'écoute pas,
mais il y a
une transmission par rapport aux gestes en fait. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est un peu, que je trouve finalement, j'ai l'impression que les transmissions se font aussi à des endroits du corps, quoi. Fabrique des mémoires.
Bien quoi. Sûr, et dans le cadre de ce film-là, ce serait quel geste? Ce serait ouvrir des livres, les déplacer?
Oui, c'est ouvrir, oui, comme vous dites, ça peut être ça. Ça peut être aussi une coprésence dans l'image aussi.
Juste ça, ce qui est déjà pas mal.
La coprésence dans l'image, enfin, c'est aussi ce que fabrique peut-être, je sais pas, le cinéma. Hein, enfin, voilà, enfin, on met en place aussi des éléments qui n'ont peut-être rien à voir ensemble, qui ont à voir, pas à voir, qui fabriquent des écarts.
Par exemple, ce film, ça peut être une façon pour vous, artiste Florence Lazare, de mettre votre fils et votre père dans un même cadre.
Voilà, par exemple.
No, I would not agree with that definition at all. I'm simply a photographer. I don't find the definitions or these terms to be very useful. All photographs, in my opinion, but all photographs are documents. Whether you're talking about a camera that's taking pictures in a bank automatically of every person that walks into the bank, or you're talking about the photographs in your passport, or you're talking about...
En réalité, je ne suis pas du tout d'accord avec votre définition. Moi, je ne suis que photographe. En réalité, peu importe la tradition à laquelle j'appartiens, je ne crois pas du tout à ce genre de description. À mon sens, toutes les photographies, quelles qu'elles soient, sont des documents. Qu'il s'agisse des photos que prennent les appareils automatiquement quand vous entrez dans une banque, qu'il s'agisse des photos que vous avez sur votre carte d'identité, votre passeport, qu'il s'agisse des photos que l'on voit dans une exposition à la Fondation Cartier-Bresson, pour moi, toutes ces photos ne sont que des documents, c'est tout, c'est-à-dire elles transcrivent ce qu'il y avait devant l'appareil photo à ce moment-là. Et mes photos ne sont guère différentes, elles sont même complètement identiques, des documents, rien de plus.
France Culture par les temps qui courent, oui, Marie Richeux avec Florence Lazare.
Les altérations recherchées dans la musique de Pauline Oliveros, The Roots of the Moments, et la voix de David Goldblatt dans une archive de France Culture. Il était au micro de Caroline Brouet à la Grande Table en 2011. Florence Lazare, lorsque Goldblatt dit « Toutes les photographies sont des documents, un point c'est tout », qu'est-ce que vous dites, vous ?
Moi, je pense qu'il a une position un peu radicale, enfin radicale par rapport à sa propre production.
Vous voulez dire que sa photographie excède le seul document ?
Moi, je pense que oui. Oui, moi, je pense qu'elle excède la question du document. Mais après, voilà. Enfin, si chacun considère, enfin, la question du document est une question voilà complexe. Elle fait partie voilà des questions bien sûr dans mon travail. Par exemple, pour la série Aimé Césaire, c'est clair que je montre des documents, mais qui sont saisis, voilà, par des corps, donc par un présent. Donc moi, je pense qu'on peut avoir accès aussi, enfin, avoir une lecture en fait des documents à partir du moment où c'est saisi, ou quand il y a une autre temporalité en fait qui rentre en jeu pour pouvoir en fait se saisir nos documents. Parce que
en réalité, l'occurrence là, des jeunes gens qui manipulent.
Qui sont aussi éloignés dans l'âge, hein, parce que ce sont des très jeunes gens, hein, donc qui a priori ne sont pas en prise avec ces documents, mais qui les saisissent tout de même.
Et quels documents en l'occurrence ?
C'est des documents qui témoignent de. C'est des documents assez précis, hein, qui témoignent de l'histoire de la décolonisation, des débats autour de la décolonisation en France. Voilà, ça peut aller d'un manuscrit du premier jet sur le discours du colonialisme écrit par Aimé Césaire à l'Assemblée nationale, donc sur l'entête de l'Assemblée nationale, où il note impossible contact entre République française et Assemblée nationale. Voilà. Ça peut être il y a un certain nombre de documents. Mais oui, moi je pense que tout document doit être à un moment donné saisi et doit être à un moment donné contextualisé.
On a commencé par raconter la manière dont vous oubliez votre appareil photo. Non, vous laissez votre appareil photo pour faire ce premier film en Serbie en 1999. Et dans l'exposition qui montre votre travail en ce moment au Jeu de Paume, qui est une institution souvent tournée, alors je ne sais pas comment elle se présente aujourd'hui, mais autour de la photographie, mm-hmm. de l'image. Mm-hmm. On voit beaucoup de films dans mm-hmm. cette exposition. Mm-hmm. À l'exception de cette série que vous mentionnez là, aujourd'hui, il est où votre appareil photo ? S'il était resté à la maison en 1999, aujourd'hui, il tient quoi comme place travail ?
Il n'est pas très présent. Enfin, où il est présent, j'ai fait ce projet photographique, mais qui était un projet collectif, un projet sur une très longue durée, avec un dispositif précis. Enfin, pour moi, ça a été comme faire un film, en fait, cette série. Dans la question de la recherche, parce que j'ai beaucoup cherché, maintenant de faire mes films, je fais beaucoup de recherche. Il a pris pratiquement la même durée que d'un film.
Et c'était quoi alors, avant 1999, votre rapport avec la photographie ?
Je faisais des portraits. Je faisais principalement des portraits photographiques à la chambre.
De qui ?
De mes proches, enfin de proches, enfin et surtout de sous c'est principalement de femmes, mais je mettais en place un protocole très simple en fait qui était que la chambre était une espèce de présence entre le modèle et moi-même. Il y avait déjà peut-être cette question de échelle 1, de dispositif d'enregistrement qui me permettait d'être en retrait. Il y avait quelque chose d'assez symétrique en fait, dans la distance entre moi-même, l'appareil photo et les modèles.
Et vous diriez que votre pratique des films a gardé une trace de la pratique du portrait photographique ?
Oui, je pense. Mais je réfléchis pas beaucoup à ça, en fait. Mais on me renvoie ça. On m'a un peu renvoyé ça, là, dernièrement.
Mais je pense par exemple à un film comme La Prière, qui se trouve assez au bout de l'exposition, d'ailleurs dans un endroit où il fait très froid. Je me suis demandé si c'était fait exprès ou pas.
Ouais.
Parce qu'on voit des gens qui prient dans la rue.
Oui, donc. Oui, oui. Oui, on a, oui. c'était dans le débordement, en fait, dans le débordement des salles d'exposition.
Je pense à ce film-là où il y a moins de visages frontaux, les corps sont filmés différemment, il y a peut-être encore plus de corps qui rentrent dans le cadre. Et je me suis dit, ah tiens, c'est peut-être un film un petit peu différent, ce film-là, Florence Lazare.
Bah, c'est un film, oui, différent. Déjà, ça a été une expérience de filmage pour moi très puissante.
On rappelle où et quoi ?
Donc j'ai filmé une prière mais qui était en fait en bas de chez moi, hein, rue Polonceau. Donc j'étais très familière en fait de ces prières qui maintenant ne sont plus.
Quartier de la Goutte d'Or à
quartier
Paris, dans le 18e.
Voilà, quartier de la Goutte d'Or à Paris. D'ailleurs, je regrette pas mal qu'il n'y ait plus ces prières. J'étais habituée à entendre j'étais assez habituée à ça. Bon. Et voilà. Et un jour, j'ai décidé, comme j'étais familière, c'était en bas de chez moi. Je me suis dit, bon, il faut que je filme ce. Il faut que je filme ce moment. Et je l'ai, en fait, et pareil, par défaut. Enfin, il y a souvent par défaut, les choses arrivent. Mais c'est assez. Les impromptus, ils sont importants. Enfin, je crois que c'est une manière aussi de construire les impromptus, plutôt. au départ, j'étais à peu près sûre que je n'ai pas filmé comme j'ai filmé là. Enfin. Et donc, je pensais filmer beaucoup plus loin et ne prendre que le son. Et puis, il y a une personne, donc je descends avec mon fils qui m'a accompagnée. J'avais quand même posé la question à l'imam le matin en lui disant bon, est-ce que je peux filmer? Il m'avait dit oui, d'accord, à vos risques et périls. Bon. Et donc, et ce monsieur me dit mais non, madame, vous n'allez pas poser votre caméra là, vous allez poser là devant la voiture. Bon, je dis ok.
Une voiture qui coupait la route?
Une voiture qui coupait la route. D'accord. Bon, je fais comme il me dit. J'installe. Ma caméra devant la voiture, et puis donc je commence à filmer, et au bout d'un moment je m'aperçois qu'en fait la limite de la voiture était la limite de la prière, donc que les tapis allaient jusqu'à la voiture. Voilà.
Et donc, petit à petit, les tapis s'étalant à même le sol, voilà. Les fidèles venant s'installer sur les tapis pour prier, mm-hmm. et se multipliant et arrivant de plus en plus proche de la voiture, se rapprocher aussi de votre caméra.
Et de moi-même, voilà, absolument. Voilà. Et ben, je suis restée. Mon fils est parti. Parce qu'il a eu, à un moment donné, il sentait que ça allait mal se passer, donc il était petit. Hein. Mais enfin, il avait l'âge d'ailleurs du film dans Confession d'un jeune militant. Il est parti, il m'a laissé seule. c'était très très impressionnant. Enfin, ça a été très impressionnant pour moi d'être là en fait, d'être là en fait à une place impossible en fait. Voilà, enfin déjà c'était une place un peu impossible.
Plein d'impossibles.
Oui, plein d'impossibles. Ouais, mais c'était. Mais
vous
voilà,
étiez une femme.
J'étais une femme.
Dans une assemblée d'hommes, vous n'étiez pas là pour prier.
Devant un rituel, devant. Ne faisant pas face à Dieu. J'étais contre-rebrousse-poil. J'étais complètement à rebrousse-poil, quoi. Mais voilà. Mais ce que je trouve intéressant, en fait, c'est toute cette désorganisation, en fait, de la prière qui. Enfin, c'est organisé.
Ou la très grande organisation.
Non, c'est les deux. Voilà, c'est très organisé, mais en même temps, il y a quelque chose de très fluide. Les gens viennent un peu au milieu, repartent. Enfin, voilà. Enfin, ça fabrique effectivement quelque chose de une scénographie, sa propre scénographie, avec ce qui est intéressant aussi, c'est les trottoirs, voilà, qui sont ouverts au passage. Donc il y a une espèce de cohabitation en fait. C'est quand même, voilà, c'est ce qui m'intéresse. Je trouve qu'il y avait une cohabitation intéressante en fait de l'espace public.
Mais à chaque fois, ces films-là, alors peut-être un peu moins pour Confession d'un jeune militant, mais ce film en 1999, il vient chercher une position absolument dissidente. Enfin, en tout cas, il vient vraiment au cœur de là où ça fait mal. Dans le film Les Pierres, il vient qui plus est. Enfin, il peut pas venir plus au cœur de là où ça fait mal. On peut dire que le moment où vous réalisez ce film sur la prière à la Goutte d'Or à Paris, vous posez votre caméra, peut-être par défaut, peut-être par hasard, mais au cœur de là où ça fait mal en ce moment en France.
Ah ben là, c'est... Oui, oui. Enfin, 2008, on n'était pas encore dans ces... On n'était pas encore dans cette...
Très bien, mais à la Goutte d'Or, cette question-là des prières qui débordaient dans la rue était déjà une question problématique.
Et c'était une question problématique, mais moi, je vivais là. Donc moi, c'était un espace extrêmement familier. Je ne voyais pas du tout du haut de positions abstraites.
Ou de la une des journaux.
Ou la une des journaux, quoi. C'était quelque chose, voilà, enfin, de totalement... C'était familier. C'était pour moi quelque chose de normal. C'était quelque chose de... Moi, ça me plaisait, cette espèce de cohabitation, de ce partage de l'espace public. Même si à un moment donné, il est privatisé. Voilà, il était privatisé un moment, entre guillemets, par la prière. Mais comme maintenant, les espaces publics sont privatisés par d'autres... Mais il y avait quelque chose de l'ordre de la cohabitation que je trouvais très, très belle. Parce que je descendais chez moi, parfois effectivement je me retrouvais avec cette prière quand j'allais chercher je sais pas mon bout de pain, quoi.
Quand le film est fini, peut-être je retrouve des traces, mais en fait les femmes s'imposent. C'est étonnant parce que de film en film c'est presque 80% de portraits de femmes, quoi. Peut-être parce qu'au moment difficile, c'est certainement les femmes qui sont le plus, qui prennent le plus, qui subissent le plus, mais qui préservent le plus aussi. Et depuis le premier film qui est Cite 2, c'était une femme qui prend la parole, qui raconte la vie dans le camp des réfugiés jusqu'au dernier film, Le Papier et la Braie, c'est encore une histoire de femmes. Mais j'ai toujours vu qu'il y a des moments difficiles. Ces femmes ont toujours voulu, même juste le moment qui précède la mort, ils essayent toujours d'envoyer un message positif, un message de résistance aux autres futurs, les jeunes gens qui viennent après. Et en fait, si vous commencez à filmer ces histoires-là, peut-être je trouve ma place en tant que cinéaste. Sinon, je me demande pourquoi je ferais des films, quoi.
Secondes, 52 secondes. Au temps des crises et des guerres, se créent des parallèles qui disent que la mère est l'égale du guerrier. À Athènes, dans les cimetières, les seules tombes marquées étaient celles des mères et des soldats, les berceaux comme les tombes. J'ai entendu une centaine de fois des femmes vont en guerre dire que la naissance et la mort appartiennent au même cycle de la vie. Elles considèrent que l'enfant dès qu'il est né peut mourir pour des buts qui lui ont été imposés. 2 minutes 18, 3 minutes.
La peur explique que les femmes, parce qu'elles donnent la vie biologique et s'occupent de maintenir cette vie, de la sauvegarder, ont d'autant plus peur de la perdre. La discrimination contre les femmes, l'inégalité de leur position, crée leur révolte. Ce mécontentement ne s'est pas organisé pour devenir une force commune. C'est un petit peu du timing avec les... C'est quoi le mot français pour dire timing ? Des repérages temporels ? Des textes qui sont rapportés comme ça dans le livre, Florence Lazare qui accompagne votre exposition au Jeu de Paume. Et c'est la retranscription des paroles qui sont dites dans Les Femmes en Noir, qui est un film dont on va parler dans un instant. Et juste avant, c'était Riti Pan qui disait en 2007, à l'occasion de la sortie de son film Le papier ne peut pas envelopper la braise, que c'était enfinement des femmes, de plus en plus enfinement des femmes, pour leur place particulière dans les guerres, qu'il trouvait sa place de cinéaste. Alors probablement pour des raisons assez différentes que celle qui vous a fait filmer Les Femmes en Noir. Est-ce que vous nous diriez ce qui vous a emmené à ces femmes ?
C'était en fait dans la continuité de mes recherches des espaces de résistance en fait en Serbie, et que ces femmes, les femmes en noir, voilà, c'est un des groupes majeurs de donc féministes et pacifistes, mais qui existe aussi en Israël, qui existe enfin bon. Qui a été un des groupes il me semble des plus importants et de résistance en Serbie. Enfin c'est elles ont fait un travail absolument incroyable et hallucinant quoi. Avec une dextérité, une détermination. Hein. Elles étaient considérées comme des sorcières hein, là-bas. Ouais. D'ailleurs, un certain nombre de femmes étaient considérées comme des sorcières. Enfin, j'ai croisé. Enfin, voilà, il y avait quelques femmes dans la résistance, enfin, qui résistaient. Notamment, je pense aussi à Natasha Kandic, qui faisait partie, qui était avocate, qui a défendu, qui a vraiment travaillé à établir les faits. En Serbie, était aussi bien sûr considérée comme sorcière. Voilà. Oui, donc c'était quand je les ai rencontrées, j'ai eu une espèce il y a eu une espèce d'évidence quoi.
C'est un film où on les entend parler. Hein, je citais une partie de ce qu'elles disent, mais où aussi leurs visages apparaissent d'une manière hyper précise, frontale. Et vraiment apparaissent quoi, c'est des visages. Je sais pas, c'est comme ça fait l'effet de visages cachés avant et qui apparaissent par le film.
Alors moi j'avais pas pensé à ça. Enfin effectivement, rétrospectivement, ouais, je l'ai montré aussi au Jeu de Paume parce que je trouve qu'elle, voilà, ça me faisait plaisir. Enfin voilà, je crois qu'il a quelque chose d'assez particulier et je pense que c'est surtout lié aussi au fait alors pour le coup là que je filmais sans comprendre, alors là j'avais plus ma mère, j'étais voilà, et j'ai filmé comme si je faisais partie en fait de ce groupe qui écoutait, qui essayait de capter. Je savais absolument dans quel, je savais quand même grosso modo ce qui se disait. Hein. Quand je dis que je comprenais rien, c'est-à-dire que j'étais pas dans l'affinage, voilà. Et du coup, de manière, du coup, je me suis mis à filmer toutes ces femmes, qui écoutaient quoi, et qui écoutaient ce discours qui peut nous sembler assez. Reconnaissable, hein, discours féministe totalement reconnaissable, mais pour elle c'était vraiment quelque chose de c'était une découverte en fait, c'était un arrachement en fait pour elle, parce que la plupart de ces femmes venaient, j'ai filmé au Monténégro et la plupart de ces femmes venaient vraiment de villages, de la montagne, complètement éloignées. Il y en a certaines qui n'ont pas dit à leur mari qu'elles venaient quoi. Donc c'était, il y avait quelque chose de l'ordre d'une vraie décision de venir, quoi. Et d'être ensemble, et voilà. Et d'essayer de comprendre, voilà, enfin, de comprendre ce contexte, idéologique, nationaliste, machiste, voilà. Et qu'il y avait, bien sûr, il y a quelque chose de l'ordre de, voilà, la Serbie est une société très machiste, où la question de la masculinité prime et passe par, bien sûr, voilà, enfin, la guerre est un lieu de fabrication de cette masculinité, quoi.
C'est peut-être d'ailleurs pas un hasard si votre exposition commence par des hommes qui parlent et des femmes qui se taisent et se conclut par une femme qui parle absolument en puissance. Merci beaucoup, Florence Lazare. Votre exposition est visible en ce moment au musée du Jet de Paume à Paris. Tu crois que la Terre est chose morte? Trois petits points. C'est jusqu'au 2 juin. Les commissaires sont Sandra Cattini et Dean Ingster. Le livre, j'en ai parlé, est une publication qui accompagne cette exposition. Puis vous pourrez poursuivre la conversation avec nos auditrices et nos auditeurs parce que vous serez l'invité de l'émission Une vie d'artiste le 13 avril prochain. Eneki gaitegun gerlan ibilizu bala bat horra zeikin iene ala hire. Zertakoen aihunki harekin niere zen ertakoen aihunki harekin.
Au son ce soir, c'était Pierrick Charles, à la réalisation Lise-Marie Barré. Un grand merci à Camille André, Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre.
Sentier pierreux, serpentant dans la montagne, froide. Là où s'amasse de blancs nuages, une chaumière. J'arrête le char et aspire la forêt d'érable au soir. Feuilles givrées, plus rouges que les fleurs du printemps.